Les deux orphelines, cinquième partie, chapitre 17. Lafayette ne dissimulait pas sa satisfaction depuis que le calme plat ayant tout à coup cessé, son escadre marchait de façon à rattraper le temps perdu. Le tout était maintenant de ne pas éprouver d'accident de route pendant la traversée. Les grosses préoccupations du marquis avaient trait aux croisières. Il se demandait si l'on parviendrait à les éviter. Et comme il s'ouvrait à M. de Virlay de l'ennui que lui occasionnerait un accident de ce genre, le marin lui dit, avec une rondeur et une gaieté qui contrastaient singulièrement avec le ton et l'air inquiet du général. « Mon cher général, tout ce que je puis vous dire, c'est que nous avons eu, ou pour mieux m'expliquer, vous avez eu de la chance de n'avoir pas encore vu apparaître de vaisseau anglais à l'horizon. » Et M. de Virlay, jouissant de l'inquiétude qui se peignait sur le visage de son interlocuteur, ajouta « C'est surtout depuis que l'on a eu vent, à Londres, de la décision récemment prise par le roi de France de faire partir un corps d'armée pour l'Amérique, que ces messieurs d'outre-Manche ont redoublé d'ardeur contre nous, et pris des mesures sévères pour empêcher les expéditions françaises, présentes et à venir, d'aborder dans leur magnifique colonie, qu'ils entendent bien disputer à l'insurrection dirigée par votre ami Washington. Ce que vous appelez assez cavalièrement une insurrection, monsieur de Virlay, riposta Lafayette, est une bonne et grande guerre, dont le but est digne de fixer l'attention des puissances européennes et de gagner des sympathies aux Américains et à leur illustre chef. Révolte ou guerre, ricana le marin, il n'en est pas moins vrai que la Grande-Bretagne espère bien en venir à bout, à la longue. C'est là une erreur, croyez-le, fit le jeune général en se radoucissant, car plus cette guerre durera, et plus ce que vous appelez l'insurrection prendra de force pour lutter victorieusement contre les armées envoyées de la métropole anglaise. Chaque jour voit de nouveaux contingents venir se joindre aux troupes de Washington. L'insurrection s'étendra bientôt dans toutes les provinces du Sud, qui jusqu'à présent avaient attendu les premiers résultats avant de se décider à prendre une part active à la lutte. Bientôt, on comptera un nombre considérable de combattants embrigadés pour marcher à l'assaut des villes où les généraux anglais tiennent encore. Et je puis vous dire que le triomphe de la cause que j'ai embrassée ne fait pas de doute pour moi. Pourvu toutefois, répliqua M. de Virlay, que les croisières anglaises ne donnent pas du fil à retordre au général Rochambeau, qui va bientôt se mettre en route. Comptez-vous pour rien qu'une puissante escadre française, probablement sous les ordres de M. d'Estaing, accompagnera les transports de Rochambeau? Alors, il y aura bataille navale, parbleu. Et c'est bien ce que nous devrions chercher surtout. Battre ces messieurs qui veulent être maîtres de la mer. Mille tonnerres, s'écria le capitaine qui commençait à s'échauffer. Est-ce assez pitoyable de penser qu'il faut prendre des précautions pour éviter de rencontrer des navires anglais? Ah, tenez, monsieur le marquis, on nous fait jouer un bien méchant rôle dans toute cette affaire-là. Obliger des marins à se retirer à force de voile dès qu'ils apercevront l'ennemi? Mais c'est leur demander l'impossible. Et je doute, monsieur le général, qu'on obtienne cela de l'amiral d'Estaing. Je le connais, moi. Je sais la haine qu'il a jurée aux Anglais. Monsieur d'Estaing obéira aux ordres du roi. Vous n'avez pas à en douter, répliqua Lafayette. Le capitaine commençait sans doute à sentir que la colère lui montait au cerveau, car il dit à son interlocuteur qui, lui, avait conservé tout son calme. « Laissons là cette conversation, si vous le voulez bien, monsieur le marquis, car je m'aperçois avec regret que nous ne voyons pas les choses de la même façon. « Je suis persuadé, moi, répondit le général, que nous serons absolument du même avis le jour où tous deux nous serons en présence des ennemis. Ce jour-là, commandant, accomplissant notre devoir jusqu'au bout, militaires et marins feront assaut de vaillance. Dieu vous entende, général, conclut M. de Virlay en saluant Lafayette. Mais lorsque le marquis se fut retiré pour regagner sa cabine, M. de Virlay alla rejoindre le timonier qui se trouvait à la barre. Vois-tu bien tous nos feux? Demanda-t-il. En posant cette question, le commandant faisait allusion à la nécessité qu'il y avait de s'assurer constamment qu'aucun navire faisant partie de l'escadrille ne s'éloigna trop de la route à suivre. Le timonier comptait les feux avant de répondre, quand tout à coup le maître de timonerie, Mathieu, quitta la place qu'il occupait derrière le mât, ce qu'il avait caché à la vue du capitaine, et s'avança en chaloupant encore plus que d'habitude. « Ah, te voici, vent debout, fit M. de Virlay. Je m'étonnais de ce que même n'étant pas de quart, Tu fusses allé te reposer sans m'avoir vu.
Se reposer ?
Grommela Mathieu en projetant toute une bouchée de nicotine. Se reposer quand d'un moment à l'autre on peut avoir à se relever pour monter sur le pont ? Il vaut bien mieux y rester en permanence. Et regardant le capitaine. C'est bien aussi votre avis, mon commandant, puisque vous v'là. Et je suis bien sûr que vous y serez encore un bon bout de temps, comme qui dirait jusqu'à demain matin, mon capitaine. Car nous pourrions bien avoir pas mal de besogne à faire d'un moment à l'autre. Et Vent Debout, prenant familièrement la main de son commandant, entraîna doucement celui-ci à bâbord, puis indiquant l'horizon. « Qu'est-ce que vous apercevez là-bas, mon capitaine ? » dit-il. « Là ? Où ça, là ? Parbleu, suivez bien la direction de mon doigt, et attendez aussi longtemps que vous ne verrez rien. »« Ah ça, Vent Debout ? » dit M. de Virlet, après avoir regardé inutilement pendant 2 minutes. « Est-ce que tu as perdu la tête, mon vieux ?»« Attendez, capitaine !» Mais le commandant s'éloigna en disant « Du moment que je ne vois rien à l'œil nu, je vais chercher ma longue vue de nuit. » Il se dirigeait déjà vers l'escalier conduisant à l'entrepont, quand Vent Debout s'écria « Ne bougez plus, capitaine, la voici ! La voici, tenez, une rouge ! Tenez, une bleue ! Là, là, voyez-vous » Monsieur de Virlet avait vu effectivement. Il ne fit qu'un bond et s'élança dans l'escalier. Quelques instants plus tard, il revenait tout impressionné et frissonnant d'aise, se placer à côté du maître de timonerie, qui, lui, n'avait pas quitté sa place. Et braquant sa longue vue sur le point de l'horizon où il avait aperçu des lueurs, il attendit. Puis tout à coup, « Parbleu, ce sont des fusées de signaux !»« Les nôtres sont blanches et vertes, mon capitaine !» prononça Mathieu. « C'est donc l'anglais !» s'écria M. de Virlet. « Tiens, une rouge, puis une blanche, un peu plus loin !» Au bout de quelques minutes employées par lui à observer attentivement l'horizon, le commandant du Lougre avait acquis la conviction qu'une escadre anglaise était en vue. « Mille diables » fit-il en serrant vigoureusement le bras du maître de timonerie. « C'est un signal de ralliement. Il n'y a pas à s'y tromper. Au surplus, regarde-toi-même, Vent Debout. » Il passa la longue vue au marin en disant « J'ai vu ce que tu n'as pu voir avec tes yeux, quelque bon qu'il soit. » L'amiral a signalé le ralliement et de tous les autres navires on a répondu. « Vois-tu les petites fusées qui s'élancent de distance en distance ?» comme si elle sortait de la mer. « J'aime ces feux d'artifice-là, » répondit le vieux marin, dont la voix prenait maintenant des intonations joyeuses. « Une, deux, trois, et là-bas encore une, deux, trois. » Ce qui fait, avec le vaisseau amiral, 7. 7, c'est le compte jusqu'à présent. « Tant mieux, tant mieux !» s'exclama Mathieu en rendant la longue vue qu'à son tour M. de Virlet porta à son œil. Vent Debout était devenu tout gaillard. Il se frottait les mains avec rage et de son gosier s'échappait une sorte de petit gloussement nerveux qui lui venait comme un hoquet chaque fois qu'il éprouvait une émotion agréable. « Mon capitaine » balbutia-t-il à mi-voix. « Il ne faut encore rien dire à tous ces messieurs. Croyez-moi, il vaut mieux qu'ils ignorent la chose, jusqu'au bon moment. »« C'est mon avis. Seulement, nous autres, mon vieux, nous devons avoir l'œil ouvert et prendre toutes nos dispositions. »« Pour le branle-bas, pas vrai ? C'est à quoi je pensais. » « Minute, Vent Debout. Te voici pressé comme s'il s'agissait d'aller à la noce. C'est que j'ai hâte d'entrer en danse, mon capitaine. »« C'est égal, mon vieux Mathieu. Il faut modérer ton ardeur. Prenons nos dispositions d'abord. Pour la danse que tu aimes, il faut avoir l'orchestre tout prêt. C'est ce dont je vais m'occuper tout de suite avec mes officiers. Quant à toi, Vent Debout, charge-toi de diriger la manœuvre. Il est urgent que nous ayons tous nos bâtiments ralliés au plus près. En outre, il faut signaler au cutter. Je m'en charge aussi, mon capitaine. » M. de Virlet accordait ainsi qu'on le voit une entière confiance à son maître de timonerie. Il savait Mathieu, un marin consommé, qui, à l'instruction près, eût pu faire un excellent capitaine de navire. Il pouvait donc pouvoir se décharger sur lui de tout ce qui concernait les signaux à échanger avec les capitaines des deux cutters. Une chose préoccupait le capitaine de Virlet. C'était que les deux petits bâtiments chargés d'éclairer l'escadrille n'eussent pas encore fait des signaux d'alarme. « Cela ne te surprend pas ? » demanda-t-il à Mathieu. « C'est précisément à quoi je pensais. Cependant, ils ont, comme tous les autres, les feux allumés. »« Oui, mon capitaine, je les aperçois, une dizaine d'encablures en avant. Donne-moi donc exactement la position des bâtiments, si tu le peux, Vent Debout. Je t'écoute. » Le maître de timonerie prit la longue vue et commença. « En avant, les deux mouettes !» C'est ainsi qu'ils indiquaient les cutters. « En tête, en première ligne, la carcasse de l'Orient. Le brick est clair ? Tout juste !» Après, je compte les frégates, puis la galiote. C'est bien, et le brick clairon.
Ce carcasse de Dunkerque ferme la marche. C'est bien tout ce qu'elle est bonne à faire avec ses 20 mauvais canons. Bon ou mauvais, Mathieu, ils feront leur partie dans notre orchestre. Alors, il faut commencer les signaux à tous. C'est ton affaire. Ne manque pas de t'y prendre de façon à te faire comprendre de ces deux capitaines des briques, qui ne me font pas l'effet d'être des malins de premier rang. Agis donc en conséquence. » Et M. de Virlet allait se diriger vers le gaillard d'avant, où se trouvait en ce moment l'officier qui devait prendre le quart, quand tout à coup il se rencontra face à face avec un officier qui, en le voyant s'approcher, s'était redressé de la position accroupie qu'il avait gardée jusque-là. « Qui vive ?» s'écria le commandant. Puis, reconnaissant la personne qu'il avait devant lui, « Quoi, c'est vous, chevalier? À cette heure sur le pont, alors que tous vos camarades et le général lui-même sont probablement en train de ronfler comme des sonneurs? Ne m'aviez-vous pas, commandant, donné la permission de venir rêver au clair de lune ?» Le chevalier de Vaudrey parlait d'une voix calme où ne se trahissait aucune émotion. « Vous avez bonne mémoire, chevalier ?»« Bonne vue également !»« Ah !» fit d'un ton surpris M. de Virlet. Roger s'empressa d'ajouter. « J'ai aussi l'ouïe absolument fine, mon cher commandant. » Et si mes oreilles ne m'ont pas trompé, j'ai cru comprendre à ce que vous disiez. « Vous avez donc écouté ?» demanda M. de Virlet d'un ton qui n'était pas précisément celui de la douceur et de la politesse. « Je n'ai pas eu à écouter, monsieur, » répliqua Roger avec calme. « Je n'ai eu qu'à entendre, car vous parliez assez haut tout à l'heure. C'était bon droit, et cela d'autant plus que je ne soupçonnais pas votre présence sur le pont. Moi, commandant, je me félicite de m'être trouvé là pour apprendre. Quoi ? Qu'avez-vous appris ? S'écria M. de Virlet, qui commençait, étant donné son caractère violent, à s'emporter contre celui qu'il considérait comme un indiscret. Et il continua en haussant encore le ton. Vous avez appris la vérité, parbleu, à savoir que d'ici demain matin, au petit jour, nous serons rejoints par la croisière anglaise de l'Atlantique. La belle affaire ! Oui, je sais cela. Je soupçonne en outre que l'escadre ennemie va nous donner la chasse. La chasse ? Qu'est-ce que ce mot-là, monsieur le chevalier ? S'exclama le capitaine de frégate en se campant devant son interlocuteur. « Vous saurez, monsieur, poursuivit-il d'une voix rauque et brève, qu'on ne donne la chasse qu'à ceux qui essaient de fuir. »« Nous n'avons pas coutume de fuir, tonnerre !» interrompit Vent-Debout, qui s'était approché au bruit des voix. Monsieur de Virlet lui imposa silence d'un geste impérieux. Le vieux maître se contenta de grommeler entre ses dents. « Fuir ? Avez-vous vu ça ? Fuir ? Ah ben oui ! Ah ben oui ! C'est justement ce que nous allons faire. » Et il ajouta en baissant la voix et se parlant à lui-même. « Tu peux compter là-dessus, Blanc-Bec. » Monsieur de Virlet, de fort mauvaise humeur à présent, se disposait à prier le chevalier de bien vouloir se retirer dans la chambre affectée aux passagers. Quant à sa grande surprise, Roger lui dit. « Je suis d'autant plus enchanté, commandant, d'avoir été mis sans le vouloir au courant de votre conversation, que je vous demanderai la permission de vous présenter une observation. » Avec tout le respect que je dois à celui que je considère comme mon chef. Une observation. Et sur quoi, monsieur, je vous prie? Sur ce que vous comptez faire. Ah, vraiment? Je ne vous savais pas marin, monsieur le chevalier, ricana ironiquement monsieur de Virlet. Et ayant échangé un regard avec le maître de timonerie, voyons l'observation, dit-il d'une voix sèche. Le chevalier ne s'était pas laissé démonter par le ton ironique du capitaine. Il répondit avec simplicité. « J'ai cru comprendre, commandant, que vous donniez l'ordre d'échanger des signaux. »« Certainement, et avec chacun des navires dont les capitaines sont sous mes ordres. »« Eh bien, qu'est-ce que vous voyez d'extraordinaire à cela ?»« Quelle observation jugez-vous à propos de m'adresser concernant le service en mer ?»« Je vous demanderai tout d'abord, commandant, en quoi consistent les signaux ?»« On voit bien que vous ignorez absolument l'ABC du métier de marin, » répondit M. de Virlet en haussant les épaules. « Apprenez donc, monsieur. » que l'on se sert pour les signaux, de pavillons pendant le jour, de feu et de fusées pendant la nuit. C'est précisément ce que je voulais savoir. Vous allez donc faire lancer des fusées ? Comme vous le dites. Et ces fusées seront aperçues de l'escadre ennemie, qui n'a peut-être pas encore vu les feux des bâtiments, dont vous avez, ainsi que vous l'avez dit, le commandement suprême. Je pensais donc, monsieur le capitaine, qu'il pourrait y avoir à cela un inconvénient. Celui d'indiquer exactement votre position à l'ennemi, et le nombre de navires qu'il aurait à combattre au besoin. M. de Virlet fit un signe d'intelligence à Mathieu, et les deux marins s'approchèrent avec un certain intérêt de celui qu'ils avaient jusque-là, selon l'expression de Vent-Debout, considéré comme un blanc-bec. M. de Virlet, après un moment de silence, reprit. Monsieur le chevalier, voilà qui n'est pas mal jugé, ma foi, pour un homme qui n'est pas du métier. » Et s'adressant à Mathieu, « Que penses-tu de l'observation, vent debout ?»« Je pense que ce n'est pas assez de faire une observation, même quand elle tombe juste. Faut encore pouvoir donner un conseil, et un bon. » Le chevalier de Vaudrey était bien décidé à ne pas prendre la mouche, quoi qu'on pût lui dire. Il se contenta de répondre. « Mon Dieu, messieurs, je n'ai pas la prétention d'afficher de grandes connaissances touchant la marine. Seulement, il me semblait que dans le cas présent, il fallait, si faire se pouvait toutefois, jouer au plus fin avec l'ennemi. Et que feriez-vous à ma place, chevalier? J'admets pour un instant que vous ayez le commandement en chef de l'escadrille, et qu'il devient indispensable de faire parvenir des ordres au capitaine de chacun des bâtiments, cutter, briques et transports. Comment vous y prendriez-vous? Voici très humblement mon opinion, commandant. Je me dirais que les fusées de l'ennemi, ayant trahi sa présence vis-à-vis de nous, il est évident que les fusées que nous pourrions lancer trahiraient notre voisinage à ses yeux. Et que feriez-vous, monsieur? J'ordonnerais de mettre à la mer une embarcation qui irait d'un bâtiment à l'autre transmettre vos ordres à chaque capitaine. » Monsieur de Virelet fit un mouvement auquel Vent debout répondit par cette exclamation. « C'est tout à fait le contraire de la règle !»« Je n'en doute pas, » répliqua Roger. « Aussi n'ai-je parlé en commençant que d'une réflexion qui m'était venue. « Excusez-moi, commandant, » ajouta-t-il en s'inclinant devant Monsieur de Virelet, « de mon indiscrétion. » Mais le marin lui tendit les mains pour le retenir. « Monsieur le chevalier, » dit-il, « j'accepte votre conseil et vais le faire exécuter. J'ajoute que vous débutez heureusement dans la carrière maritime. Je sais d'avance comment vous allez débuter en qualité de militaire. Mais en attendant, retournez auprès de vos camarades. Et surtout, promettez-moi de garder le secret sur tout ceci. Je vous le promets, commandant. » Le chevalier serra la main que lui tendait cordialement Monsieur de Virelet. Et comme il allait se retirer, « Eh ben, et moi ?» lui dit Mathieu en lui présentant ouverte sa grosse main calleuse. Vent debout témoignait ainsi à sa manière d'un commencement d'estime pour celui qu'il avait jusque-là qualifié de blanc-bec. Le commandant du Lougre prit toutes les dispositions et donna tous les ordres que nécessitait la situation. Il s'agissait, on l'a vu, non de fuir l'ennemi, Roger de Vaudrey n'avait pas touché cette question avec le marin, mais bien de tromper l'escadre anglaise sur le nombre des bâtiments français qui allaient bientôt se trouver dans ses eaux. Pendant tout le reste de la nuit, chaque capitaine ayant rigoureusement obéi aux ordres émanant de son chef, on avait navigué de conserve. Les cutters prévenus s'étaient rapprochés de l'escadrille. Les briques avaient sur les flancs pris les positions indiquées par Monsieur de Virelet afin de pouvoir faire de chaque côté un rempart au transport. Le foudroyant se tenait à l'arrière-garde, surveillant l'horizon dans son immensité. Les feux avaient été non pas éteints, mais diminués autant que possible. De navire à navire, on correspondait par le porte-voix, employé en temps de guerre, et qui a une portée infiniment plus grande, afin de pouvoir dominer le brouhaha qui résulte de l'action à bord des navires. Tout pour le moment marchait à merveille. Il ventait de plus en plus fort. La marche des grosses frégates et de la galiote augmentait de vitesse. On avait fait force de voile pour rattraper le temps que le calme plat les jours derniers avait fait perdre à l'escadrille. Debout à son banc de quart, comme s'il eût été sur le point d'ordonner le branle-bas de combat, M. de Virelet causait avec son maître de timonerie à cœur ouvert, comme deux vieilles connaissances, sans se soucier ni de hiérarchie ni de discipline. « Capitaine, disait Vent debout, qu'est-ce que nous allons faire ?»« Parbleu, ce que nous faisons déjà, nous allons continuer notre route pour Boston. » Ça, c'est convenu. Mais je m'entends. Est-ce que nous allons filer comme si nous avions peur qu'on nous gagne de vitesse? C'est ce qui nous arrive, en effet, dit M. de Virelet. Tu as donc remarqué, toi aussi? Que les Anglais nous gagnent de vitesse? C'est bien visible à l'œil nu, puisque leurs fusées sont à présent plus hautes. Assez causé, Vent debout, ordonna le commandant en poussant un juron. Suffisite, mon capitaine. Je me couperai maintenant la langue à coups de dents plutôt que de prononcer un seul mot. Et le vieux marin se mit à mâcher rageusement une chique toute neuve. Un moment de silence suivit. Monsieur de Virelet s'était mis à marcher de long en large sur le pont de cet air bougon qui faisait dire aux hommes de l'équipage. « Il n'y a pas à broncher aujourd'hui. L'écureuil tourne dans sa cage. » Le commandant du Lougre était, Mathieu se le déclarait à lui-même, furieusement préoccupé. Il l'était en effet, et ce n'était certes pas sans raison. Deux pensées opposées se partageaient à l'esprit du capitaine de Virlet. D'une part, en sa qualité de commandant de l'escadrille, il avait pris l'engagement de conduire l'expédition à bon port, et il reconnaissait que son devoir était de tenir cet engagement envers le général de Lafayette. D'autre part, la haine invétérée qu'il portait aux Anglais s'était encore accrue, ainsi que l'on sait, par un fameux compte à régler avec ceux qui avaient détruit la Désirée. Or, l'occasion se présentait de tirer vengeance de la perte de sa chère corvette en détruisant à son tour quelques navires appartenant à l'armée navale de la Grande-Bretagne. Que résoudre? Consentirait-il à faire taire sa rancune pour tenir ses engagements? Profiterait-il au contraire de l'occasion qui lui était offerte de se mesurer avec l'escadre ennemie? Mettrait-il sa conscience d'accord avec son devoir? Ou bien chercherait-il un moyen détourné d'arriver à concilier son devoir et sa haine? Personne à bord n'ignorait le mauvais état des bâtiments composant l'escadrille. Tous, marins comme passagers, avaient pu constater que la plupart des navires étaient d'exécrables marcheurs et que, poursuivis, ils ne parviendraient certainement pas à s'en tirer par la fuite. M. de Virlet pourrait donc arguer au besoin de l'impossibilité où il s'était trouvé de distancer l'ennemi et d'avoir été mis dans l'obligation d'accepter le combat. Certes, pour qui ne connaissait pas la droiture de caractère du marin, il était évident qu'après avoir beaucoup réfléchi, hésité longtemps, le capitaine de frégate finirait par se laisser aller à son tempérament d'homme de guerre et ferait en sorte de se mesurer avec ses ennemis détestés. Mais M. de Virlet était homme sincère autant que courageux, et s'il se plongeait maintenant dans ses réflexions, c'est qu'il cherchait le moyen de ne pas manquer aux engagements pris et de canonner quand même l'escadre anglaise. Ce n'était pas, on en conviendra, chose facile, et la promenade saccadée du marin menaçait de se prolonger lorsqu'il s'arrêta tout à coup. « Après tout, se dit-il, puisque leur marche est supérieure à la nôtre, ils finiront sans doute par nous apercevoir, et nous serons bien forcés, même au mépris de nos promesses, d'engager le combat. » Ces prévisions du commandant furent tout à coup confirmées par le maître de timonerie. « Mais, mille tonnerres ! » s'exclama-t-il, rompant ainsi le silence qui, depuis le départ du chevalier, régnait sur le pont. « Mais, commandant, il me semble que ces gaillards-là attendent que nous répondions à leurs signaux. » M. de Virlet, en entendant l'exclamation devant debout, s'arrêta court devant celui-ci. « Que veux-tu dire ? » demanda-t-il en élevant brusquement la voix et d'un ton de mauvaise humeur. « Je veux dire, mon capitaine, que ces forbans nous prennent pour quelques-uns de leurs cliques, et voilà qu'ils nous signalent de les rallier. » M. de Virlet fit aussitôt appeler le général Lafayette. Celui-ci arriva, suivi de plusieurs officiers. « Que se passe-t-il donc, commandant ? » demanda-t-il. M. de Virlet prit le général à part et lui parla bas à l'oreille. « Ce que vous venez de m'annoncer, commandant, ne peut pas et ne doit pas rester un secret entre nous. Il est indispensable que les officiers qui se trouvent à bord sachent la vérité. » Et sans attendre que M. de Virlet l'y eût autorisé, le marquis de Lafayette, se tournant vers les militaires qui l'avaient accompagné sur le pont, leur dit en élevant la voix pour être mieux entendu de tous. « Messieurs, une escadre anglaise est en vue. Notre commandant que voici vient de m'en donner avis, en ajoutant que les navires ennemis nous gagnent de vitesse. »